BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et cette deuxième heure commence bien entendu par toute l'info éco avec Stéphanie Collot.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, la France va avoir besoin de bien plus d'électricité que prévu d'ici à 2035. C'est pour répondre aux objectifs climatiques européens et aux enjeux de réindustrialisation. C'est la conclusion d'un rapport de RTE publié ce matin. Cette accélération de la consommation va contraindre le pays à doubler sa production d'énergie renouvelable d'ici à 2035. Le déficit commercial se stabilise à 9,2 milliards d'euros en avril, un chiffre identique au mois précédent. Au total, sur le mois, la France a exporté pour 50 milliards d'euros de biens et en a importé pour 59 milliards. En Chine, les exportations reculent fortement en mai, moins 7,5% sur un an. Et c'est une première depuis trois mois. En cause, les craintes de récession aux États-Unis et en Europe et l'inflation qui pèse sur la demande en produits chinois. Les douanes chinoises annoncent par ailleurs que le commerce entre la Chine et la Russie est au plus haut depuis le début de la guerre en Ukraine, avec plus de 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux. L'OCDE relève légèrement sa prévision de croissance mondiale cette année de 2,6 à 2,7%. En revanche, elle devrait accélérer très légèrement en 2024 à 2,9%, conséquence des hausses des taux d'intérêt des banques centrales qui pèsent sur l'investissement privé. On en vient à la création de France Travail. Le projet de loi est examiné aujourd'hui en Conseil des ministres. L'organisme devient le guichet unique pour les demandeurs d'emploi en remplacement de Pôle emploi, avec comme objectif de ramener le taux de chômage sous la barre des 5%. Une simplification qui est la bienvenue, selon Alexandre Virros, le président France d'Adecco, était l'invité de Good Morning Business.
Je dirais qu'il y a une obligation qui est presque collective, peut-être citoyenne, mais vraiment avec un impact économique et social, d'avoir une logique, disons, pour faire simple, de guichet unique.
De parcours candidat.
Oui, de parcours candidat. Et là déjà, si on simplifie, vous simplifiez. On parle des ruptures de charge. C'est comme en transport. Hein. Si vous voulez, vous ratez le changement de train quand il y en a trop, quand il y a trop de changements. Bah là, c'est un peu la même chose sur l'emploi. Il faut simplifier ce parcours.
Deux informations dans l'actualité entreprise. D'abord, Atos qui revoit à la hausse ses perspectives 2026 de sa branche Tech Foundation. Elle devrait atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, son plus bas niveau, avant de renouer avec la croissance en 2026. La marge, elle, devrait s'établir entre 6 et 8% dans 3 ans. Le groupe est en discussion avec Daniel Kretinsky pour lui vendre cette division. Et puis le géant espagnol Inditex ne connaît pas la crise. La maison mère de Zara publie un bénéfice net en hausse de plus de 54% au premier trimestre à plus d'1 milliard d'euros contre 760 millions d'euros. L'année précédente, c'est le meilleur résultat jamais enregistré par le groupe sur cette période, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie, chaque heure ce matin pour nous accompagner dans le monde économique et nous on file sur les marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Nitine Kedna nous attend chez Ports en Part à Nantes. Bonjour Nitine.
Bonjour Cédric.
Que se dire sur cette séance qui manque un peu de consistance?
Oui, qui manque un petit peu de consistance. Les marchés se cherchent un petit peu. Ce matin, en pré-ouverture, on s'attendait éventuellement à naviguer un petit peu dans le vert. Au final, c'est le rouge qui l'emporte. On est en baisse de moins 0,40. Il ne se traite pas énormément puisqu'on est à 365 millions d'euros en termes de flux, ce qui est relativement faible. Après, ce qu'on constate sur quelques séances, c'est qu'on a un marché qui traite sous sa moyenne mobile 50 jours. Pourquoi pas s'attendre encore un petit peu de consolidation pour chercher le premier support à 6080 points. Enfin, toujours est-il qu'on reste sur un marché un peu dans le rouge et qui reste quand même indécis.
Voilà donc pour la prise de température, on va dire, de ce marché. Après, il y a quelques boîtes qui méritent qu'on y jette un petit coup d'œil, notamment S2I.
S2I, oui, qui publie ses résultats annuels qui sont très bons. Ils arrivent à progresser en leur marche sur tous les fronts. L'international, où on attendait plutôt une décroissance et qui représente à peu près 60% du chiffre d'affaires, gagne 10 BP. Et la France sort une croissance de la marge de plus de 15 BP. Là, on attendait un retrait. Donc, clairement, une société qui tire son épingle de jeu, qui fait un résultat historique en termes de résultats opérationnels, puisqu'ils sortent pour la première fois 100 millions d'euros. Donc, plutôt facialement de très bons chiffres. Après, ce qu'on voit également, c'est sur la guidance, peut-être une petite déception, puisque ils ne s'aventurent pas d'une guidance sur toute l'année, mais uniquement sur la première partie de l'année, avec plutôt des belles guidances, hein, 8 et 12% de croissance organique, une marge opérationnelle entre 9 et 10%, là où nous, on était un petit peu en dessous par rapport à cette fourchette. Donc non, plutôt une belle publication, mais des guidances un peu short, on va dire.
Et puis un petit mot également d'un autre titre qui est intéressant, Trigano.
Trigano, oui. Ce qu'on peut faire, c'est regarder l'un de ses comparables, Thor, qui a publié son chiffre d'affaires T3 et pas plus tard qu'hier. Et donc, regarder un peu la division euro, puisque c'est celle qui nous intéresse, avec l'acteur Humeur, dont ils avaient fait l'acquisition. Lorsqu'on regarde socialement sur la croissance, on est sur une croissance de 20%. Il y a 22% d'effet prix, moins 2% d'effet volume. Après, ce qu'on regarde aussi, c'est que les carnets de commandes sont très bien orientés, puisqu'on est sur un niveau de 3,5 milliards. Les réseaux sont sous-stockés. Donc ça nous laisse penser que Trigano, qui va publier son chiffre d'affaires T3 le 27 juin, est très bien positionné, puisque entre-temps Trigano fait tout un travail, notamment qui va porter les prix, et également a quand même fait des acquisitions pour maîtriser son réseau de distribution. Donc ça, c'est clairement une bonne chose. Et lorsqu'on regarde également sur les indications de production, on était sur des indications de production à la fin du S1 de l'ordre de 10%, ce qui nous laisse penser que sur ce T3, on peut s'attendre vraisemblablement à une croissance de 20%, dont 6-7% pour les effets prix et 13-14% pour les effets volume. Et tout ça sur fond de valorisation qui reste quand même assez attractif, puisque lorsqu'on compare par rapport à sa moyenne de 10 ans, où elle se paye à peu près 10 fois en EV sur EBIT, on se paye aux alentours de 6 fois. Donc c'est clairement le sujet sur lequel on pourrait éventuellement se positionner avant cette publication du 27 juin.
Merci beaucoup Nitin Kedna, donc Porzampar, qui nous accompagnait ce matin. Le marché parisien qui reste pour le moment dans une tendance assez indécise, qui perd 0,4%, 7179 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Philippe de Cholet. Bonjour Philippe. Pour Matignon Finance et Thibaut Prébet. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Pour Financière Arbevel. Double ouf, on va dire, dans ces derniers jours. Pas d'abaissement de la note française, pas de psychodrame du plafond de la dette aux États-Unis. Vous êtes soulagé par ces deux ouf? Sont-ce des ouf de soulagement, Thibaut?
Non, honnêtement, sur le plafond de la dette, ouf de soulagement, très clairement, même si. Parce que la
personne n'y a cru.
Y a toujours des gens qui y croient, ne serait-ce que pour être un peu dans l'opposition. Mais c'est vrai que personne n'avait rien à y gagner, tout le monde avait beaucoup à y perdre. On avait un historique long et clair sur le fait que ça se résout au dernier moment, à la fin d'un rapport de force un peu surjoué. Donc ça, c'est pas très surprenant, mais c'est quand même très bienvenu, parce que le risque de faible probabilité, certes, était majeur. Sur la dette, honnêtement, je pense que ça aurait été dégradé, tout le monde s'en fout. La valeur de la dette n'est pas très de la note n'est pas très importante pour le marché obligataire. Je vous rappelle quand même que les emprunts d'État sont achetés par des acteurs qui sont forcés, que sont les banques, les assureurs, les caisses de retraite, les mutuelles, par des réglementations Bâle Solvency, et que ces réglementations séparent les emprunts d'État, pourvus parfois qu'ils soient de qualité investment grade, la France étant de nombreux crans au-dessus, c'est pas un sujet. Et donc en fait, qu'une dette soit double A moins, double A, double A plus, ça change rien. Donc je pense que c'est un événement qui est politiquement assez impactant, en particulier pour le gouvernement. Je crois que pour la communauté investisseur, on est quand même assez proche de l'épiphénomène. Pour autant, si on est honnête, on pourrait plus facilement, si on était complètement objectif, s'étonner de la bonne volonté des agences qui donnent une note qui reste quand même extrêmement élevée pour un pays qui a un historique de déficit très important, plutôt que de se réjouir de dire que ça valide complètement notre stratégie. Donc un peu de bienveillance, ça fait jamais de mal. De là à dire que c'est formidable, c'est peut-être un poil d'excès.
Philippe, votre regard sur ces deux oufs?
Non, oui, je partage assez largement l'avis de Thibault sur le sujet. Sur la question de la dette américaine, honnêtement, moi, je faisais pas partie de ceux qui s'inquiétaient outre mesure. C'est quand même pas la première fois que le scénario a été joué.
Alors oui, c'était la première fois que un des acteurs, on en pense qu'on en veut, appelle ses troupes à provoquer un défaut. Parce qu'à présent,
oui, mais l'acteur en question,
un peu, je te tiens, tu me. Oui,
d'accord. C'est vrai. Bon, il a quand même perdu un petit peu de son lustre et de sa splendeur. Donc, je pense qu'il y avait quand même un consensus politique assez large. On l'a vu tout de suite, d'ailleurs, dans les premiers entretiens qu'a eu Biden, comme quoi, a priori, il finirait quand même par trouver un accord. Donc, pour moi, ça a été quand même un peu un non-événement. C'est toujours à saluer, cela dit. Tant mieux. Sur la question de la notation de la dette française, largement, je partage l'avis aussi de Thibault. La notation en soi n'a pas un grand intérêt. Ce qui compte, effectivement, c'est son impact politique, encore que. Et puis surtout, maintenant, j'espère en tout cas, une volonté très claire des pouvoirs publics de s'atteler enfin à la réduction de la dépense publique, qui est le vrai sujet de la France.
Voilà donc pour ces deux événements qui ont trouvé leur leur fin ces derniers temps. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a d'autres risques qui perdurent? Parce qu'on a l'impression que on est sur la fin des hausses des taux, que l'inflation ça commence à être résolu, que les marchés finalement restent quand même collés sur des niveaux où on est bien, quoi. Enfin, si on prend dividende réinvesti, un investisseur K qui gagne 15%, ben voilà. Est-ce qu'il y a des risques que vous repérez ou qui vous inquiètent, Thibault?
Le premier problème de notre métier, et sa grande difficulté, c'est que le risque principal est celui qu'on ne voit pas venir.
Oui, bah c'est pour ça que je vous demande.
Voilà, à chaque fois qu'on identifie bien des problèmes, on a parlé sur ces plateaux du Brexit à des reprises très nombreuses, d'autres sujets, et au final, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Attention, toutefois, ce rebond de marché reste assez factice, dans le sens où vous avez raison de souligner qu'un investisseur CAC rebondit bien après avoir moins baissé, mais un investisseur asiatique ou sur les petites et moyennes valeurs, après avoir pris ses moins 20 l'année dernière, n'engage aucun rebond aujourd'hui. Sur la tech américaine, on a un fort rebond, mais après des baisses très importantes l'an dernier qui nous laissent encore assez loin des plus hauts, tandis qu'un investisseur sur le Dow Jones n'a rien repris. Donc c'est vrai qu'on est dans un marché un peu en trompe-l'œil où l'emblème pour nous, le luxe, même s'il a un peu souffert récemment, porte le marché. C'est quand même pas une réalité. Après, je pense que le risque principal aujourd'hui de mauvaise surprise, ce serait vraisemblablement sur des éléments climatiques ou énergétiques. On l'a vu encore en Ukraine. C'est des sujets qui sont assez sensibles, assez touchés. Pour le reste, c'est vrai qu'on a ce sentiment que ce cycle qu'on connaît, qu'on comprend, avec ce surstockage, on pourra en parler avec ce qui se passe en Asie, vient entraîner des débuts de désinflation. Tout ça sur un scénario qui nous semble assez normé et assez cohérent. Et toute la question qui va agiter un peu, à mon avis, les 6-9 mois à venir, c'est tout le monde nous a vendu un nombre nouveau avec plus d'inflation. Tout le monde est en train de reculer un peu à demi-mot en disant que finalement, ça a quand même l'air de normaliser assez bien. Et dans quel monde on termine? Est-ce que c'est 2019, qui est le point de comparaison le plus classique pour les sociétés? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose d'assez différent? Le dernier Black Swan qui semble un peu sensible, mais peut-être plus aux États-Unis, c'est quand même l'immobilier de bureau, qui souffre quand même de ce télétravail qui baisse la demande et qui, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, crée quand même des situations de baisse de prix, alors qu'il y a quand même pas mal de leviers financiers dessus et qui peut fragiliser un peu les banques de la région. Je pense que ça reste quand même le point de vigilance le plus significatif aujourd'hui.
Philippe, est-ce qu'il y a des points d'attention qui sont dans votre scope en ce moment, après
Oui, Thibault l'y résumait assez bien. Ça serait peut-être plus sur la question effectivement américaine et la question de la solidité du système bancaire aux États-Unis. N'oubliez pas que vous avez quand même à peu près 5000 banques, dont beaucoup de banques régionales, qui peuvent être effectivement investies sur telle ou telle classe d'actifs auprès de tel ou tel secteur. On l'a vu avec la SVB récemment. Donc c'est vrai que la hausse des taux entraîne des difficultés pour certaines de refinancement. Donc est-ce que le risque est définitivement écarté? Je ne pense pas, mais ça vous ne l'apprendrez qu'un beau matin en vous réveillant. Donc très compliqué de les anticiper de façon rationnelle. Sinon globalement, écoutez, le scénario évoqué par Biden et puis par quand même les banques centrales, à savoir d'un ralentissement marqué mais qui ne se traduirait pas nécessairement par une récession, est quand même progressivement en train de s'imposer. Et si c'est ça, c'est une excellente nouvelle, parce que vous allez avoir finalement une croissance qui va rester positive, somme toute, avec une consommation domestique qui pour le moment ne se dément pas, on le voit bien. Une baisse des taux probable, peut-être fin d'année, certainement, en tout cas l'année prochaine. Vous avez quand même beaucoup d'ingrédients pour alimenter une hausse des marchés actions.
Bon, donc finalement...
Plutôt optimiste.
Il y a quand même un changement. C'est que jusqu'à présent, on parlait beaucoup de Tina. On sait qu'on a regretté son décès et que nous étions tout seuls. Et on a une nouvelle compagne qui est promue par Goldman Sachs, qui s'appelle Tara. Zerar, Reasonable Alternative. Vous noterez mon excellent accent britannique. En clair, il y a des alternatives raisonnables parce que les rendements obligataires sont apparus plus attractifs. Quelle réflexion ça vous inspire à tous les deux, Thibault ?
Alors c'est une réalité qui avait déjà été purgée un peu l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est passé d'un marché qui, fin 2021, était assez euphorique, avec des valorisations, en tout cas aux États-Unis, qui étaient quand même assez généreuses. Tout cela s'est assez refermé, donc c'est vrai qu'il y a de vraies alternatives, mais aussi plus de vraies alternatives au sein du marché actions, c'est-à-dire que la difficulté est que l'attractivité de l'ensemble des secteurs, à l'exception peut-être d'autres actifs plus réels comme l'immobilier ou l'or ou autre, sont tous plus attractifs. Quand vous avez un CAC 40 qui se paye des multiples qui restent maintenant très bas, alors même que la croissance des entreprises qu'il compose est beaucoup plus élevé qu'il y a 10 ans, où vous aviez des sociétés qui étaient quand même pas très motivantes, et aujourd'hui vous avez des vrais champions. C'est vrai à l'échelle européenne aussi, des ASML, des LVMH, des SAP, des Schneider, des L'Oréal, c'est assez sexy, alors que le même indice il y a 10 ans faisait pas rêver. Donc vous avez aussi des couches de potentiel de valorisation et d'alternatives, même au sein du marché actions, qui sont assez intéressantes. En revanche, c'est vrai que pour l'investisseur, se dire qu'il n'est pas pressé d'aller chercher ce rebond, parce qu'il a le choix, que même le monétaire à 3%, c'est pas si mal. Alors c'est vrai que quand on compare à l'inflation, on peut se dire que c'est pas génial, mais ça reste une performance positive face à d'autres actifs qui ont du mal à le faire. C'est quand même une réalité. Je pense néanmoins que, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être plus sexy d'acheter de l'obligataire qu'il y a 18 mois. Mais quand dans le même temps vous avez un marché asiatique qui a perdu 25% et que les résultats ont augmenté, l'attractivité réelle d'autres marchés, dont les marchés actions, est également plus élevée. Donc je pense que ça te fait, c'est plus de choix, plus de réflexion. C'est l'existence du cash qui n'existait pas, qui peut d'ailleurs repartir assez vite, mais qui est intéressant. C'est un des profs de ce TINA qui, contrairement à Tina Turner, peut revivre assez rapidement. Et on a aujourd'hui dans cette logique-là, à mon avis, des choix qui sont importants, des choix de gestion à faire, mais qui sont plus des choix où beaucoup de choses sont attractives que des choix où rien n'est attractif. Et ça, ça reste plus confortable pour le gérant d'actifs.
Philippe, comment vous appréhendez ça? Parce qu'il y a aussi un aspect positif, enfin qu'on peut y trouver, c'est que on a souvent pointé du doigt un peu les passagers clandestins du marché boursier, qui étaient là parce qu'il n'y avait justement rien ailleurs et qui déformaient un petit peu le marché. Aujourd'hui, a priori, les passagers clandestins sont repartis.
Oui, ils sont plutôt repartis dans l'ensemble, mais ce que disait Thibault est juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus en honnêtement, dans l'absolu, l'embarras du choix que le contraire. La question est de savoir à partir de quand certaines zones, je pense à l'Asie en particulier, et la contre-performance de la Chine, qui peut s'expliquer pour de bonnes raisons, mais qui peut aussi être amenée voilà, à évoluer. Je crois qu'on a quand même, dans l'absolu, un potentiel, au moins sur le deuxième semestre, sur le marché chinois et les places asiatiques, probablement plus important qu'on ne le pense aujourd'hui. Donc, ceux qui n'y sont pas encore présents seraient peut-être bien inspirés voilà, de mettre un pied dans la zone. Thibault parlait également des small caps qui est une classe pour le moment qui a très largement sous-performé, ça fait déjà un moment, alors que si vous comparez la progression moyenne des bénéfices attendus sur cette année, enfin sur les deux prochaines années, elle est très supérieure à celle du CAC 40. Donc là, il y a aussi un réservoir, un potentiel de hausse sur les small caps qui est important. Et je peux multiplier les exemples comme ça. Donc un investisseur qui arriverait aujourd'hui, entre une rémunération des actifs obligataires qui devient à nouveau décente, des compartiments de la cote qui sont encore très largement délaissés, hein, ceux que je viens de citer, ben, finalement, il peut faire son shopping dans d'assez bonnes conditions. Ensuite, il y a une question d'allocation d'actifs qui est déterminée avec le gérant que vous avez en face de vous. Voilà.
C'est vrai que ça fait plusieurs fois que l'un et l'autre vous voulez m'emmener en Asie, alors allons-y. Qu'est-ce que vous retenez de cette zone asiatique avec quand même cette Chine qu'on a très longtemps et peut-être trop vite jouée, qui maintenant semble un peu émoussée
C'est un vrai sujet et c'est un sujet d'allocation d'actifs qui est très sensible. C'est très sensible parce que c'est une réflexion qu'on mène chez Financière Abbeveil qui n'est pas complètement arrêtée, qui est de dire, d'un côté, ce qui se passe en Chine est très logique. Très logique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand en Europe on sort du Covid, on a consommé, on ne pouvait pas produire, donc il y a des stocks nulle part. Et donc au moment où tout le monde sort, tout le monde veut consommer et il y a des biens nulle part. Donc du coup, l'industrie tire à pleine bourre pour pouvoir vendre face à ceux qui veulent et aussi pouvoir reconstituer des stocks. La Chine, elle, rouvre à partir de février et mars, au moment où dans les pays internationaux, Asie, États-Unis, Europe, États-Unis, on est en surstockage. Donc où la demande de biens, elle est beaucoup plus faible. Donc en fait, ils commencent à pouvoir repartir à un moment où il n'y a plus de demande. En tout cas, une demande qui est suffisamment couverte par les stocks. Donc c'est des cas qui ne sont pas comparables. Donc du coup, je pense qu'il était assez prévisible.
Donc on a un peu trop vite décalqué notre modèle sur la Chine en se disant...
C'est ça, mais ça veut dire deux choses. Un, que c'est assez temporaire, puisque ce surstockage se règle par des soldes, par des ajustements de production. Et le deuxième point est que c'est aussi un élément qui est intéressant dans le sens où il ne dit pas que la demande chinoise s'effondre. Elle dit juste, la production chinoise n'est pas capable d'être servie. Quand vous regardez ce matin, c'est pour ça que je vous y emmène, comme vous le dites habilement, des statistiques intéressantes, des exportations beaucoup plus basses qu'attendues, très fortement vers les États-Unis, où il y a en plus un contexte géopolitique qui est assez lourd, hein, plus que ce que certains pensent, assez acceptable en Europe, et franchement bonne sur le reste de l'Asie. Et en même temps, des imports qui ont été meilleurs que prévu. Donc ça donne plutôt le schéma d'une Chine où le consommateur va bien, où la dynamique interne n'est pas problématique, mais où la capacité à servir des demandes extérieures est subordonnée à l'existence de cette demande et au fait que les stocks donnent envie. Aujourd'hui, on a beaucoup de magasins dans beaucoup de secteurs divers, on le voit dans toutes les entreprises, qui disent bah j'ai un peu trop de stock, en tout cas les magasins ont un peu trop de stock, donc je ralentis un peu parce qu'ils ont, pour des raisons de besoin en fonds de roulement, ils peuvent pas avoir un stock infini, donc faut d'abord écouler un peu avant de reproduire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Face à ça, on peut pas nier le fait que c'est malgré tout plus lent. On peut pas nier le fait que le risque politique en Asie, quand il y a d'autres alternatives, comme vous le disiez Tara, font que celle qui est un peu moins certaine, parce que le politique chinois peut assez rapidement décalquer un secteur comme il l'avait fait avec Tencent ou autre, ça dit bah au oui. final si tout n'est pas très cher, pourquoi faire l'Asie ? Mais l'argumentaire sur le fait que la Chine n'est pas morte et que ce ralentissement reste assez conjoncturel et finalement peut-être plus lié à la dynamique américaine voire européenne que la dynamique interne asiatique reste un argument qui peut se débattre à mon sens.
Philippe, votre regard, vous, sur cette Chine qui, pour certains, alors peut-être pas Thibault qui est très avant-gardiste, mais a déçu.
Mais là encore, je suis d'accord avec Thibault, mais je suis très souvent d'accord avec Thibault.
C'est bien que je parle en premier, parce que comme ça, quand on est d'accord, c'est d'accord. Moi qui ai l'impression.
Moi, il faut que je lance Philippe en premier. Quoi.
Ça serait plus fair play.
Oui, moi je partage assez effectivement les Thibault sur la question quand même de la consommation en Chine et de l'impact qu'a eu en fait le ralentissement de la croissance dans les pays occidentaux, plus qu'un affaiblissement de la consommation domestique chinoise. J'ai lu beaucoup d'articles comme quoi le consommateur chinois traumatisé par le Covid aurait appris à mettre plus d'argent de côté. Je n'y crois que modérément. Je pense que le consommateur chinois est dépensier par nature et a recours au crédit beaucoup plus facilement encore que le consommateur occidental. Donc la machine n'est pas morte, elle va progressivement réapparaître. Vous avez vu qu'en plus les Chinois ont réinjecté, ont demandé à la Banque de Chine de réinjecter des liquidités dans l'économie. Donc ça c'est entre guillemets le beau côté des dictatures, hein. C'est que la Banque centrale est à votre disposition. On le voit bien d'ailleurs en Turquie avec Erdogan. On nomme la personne que l'on veut et elle est aux ordres. Donc, ils sont en mesure, du fait des réserves de change qu'ils ont, de réinjecter des liquidités considérables dans l'économie, abaisser les taux et donc relancer notamment la dynamique du marché immobilier qui a longtemps, vous savez, plombé l'économie chinoise. Donc, je crois que pour peu qu'il y ait de bonnes nouvelles venant des États-Unis, c'est vrai qu'elles sont conditionnées à un contexte géopolitique difficile et ça risque pas de changer tout de suite. Ça, c'est certain. Mais on pourrait très bien avoir une accélération de la croissance en Chine, d'où l'intérêt de se repositionner sur des concepts que celui notamment de la consommation domestique chinoise, qui boursièrement en tout cas est à l'arrêt depuis le début de l'année.
Du coup, ça veut dire qu'il faut ajuster un peu son portefeuille, qu'il faut revoir quelques thématiques, recentrer sur telle ou telle zone.
Oui, je pense que c'est important de le faire, enfin en tout cas pour une partie des portefeuilles, parce que vous n'avez plus un potentiel de hausse considérable sur les indices larges, à l'exception peut-être effectivement du SP500, dont la hausse est liée aux trois quarts à la progression des GAFA. Donc ils sont à 11%, vous avez 9% qui sont liés à la progression des GAFA. Donc ça veut dire qu'il y a des pans entiers de la cote aux États-Unis, notamment sur les valeurs industrielles, qui sont encore à la traîne. Alors pour peu que les nouvelles soient un peu meilleures, que l'inflation montre un début de reflux au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vous aurez à ce moment-là sans doute un rattrapage des indices larges aux États-Unis.
Thibault, pour terminer, à quoi ça ressemble une allocation qui s'adapte en ce moment ?
Bah, c'est une allocation qui doit être diversifiée par essence, parce que vous le disiez beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités. Il est vrai que l'obligataire aujourd'hui prend des intérêts assez forts, assez marqués, parce que justement on a une possibilité d'avoir des perspectives de baisse de taux à horizon un an qui devraient nourrir non seulement le portage qu'on peut aujourd'hui avoir entre 4 et 6,5 selon si on va chercher du risque ou pas, mais aussi peut-être un potentiel à avoir une sorte d'effet de levier si les taux devaient baisser. Et sur les marchés actions, bah c'est vrai qu'on observe un rebond de la technologie qui nous va bien, mais dans le même temps, des petites et moyennes valeurs qui ont quand même toujours du mal, et donc des zones d'intérêt historiques n'ont pas tellement changé. Donc je pense qu'il faut rester dans une vision de long terme qu'on garde, réévaluer un peu la part de l'obligataire, et peut-être effectivement continuer à attendre ces rebonds des small caps avec les retraits de la cote qui devraient s'accélérer et donner un peu de carburant à un secteur qui, il faut le rappeler, hein, pour un acheteur en 2008, au pire moment, aura triplé sur 15 ans, mais qui n'a rien fait depuis 5 ans, donc qui propose maintenant des opportunités probablement assez réelles et évidentes qui devraient pouvoir se matérialiser.
Bon, bah écoutez, voilà, on s'est dit pas mal de choses ce matin, et puis bah, vous pourrez compléter parce que vous aimiez Tina, vous aimez déjà Tara. Vous avez une chanteuse californienne qui s'appelle Tina Tara. Comme ça, vous repartirez mieux armé pour affronter les marchés.
Qui ose dire qu'on n'apprend rien sur BFM. Hein,
y compris dans la musique californienne. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Philippe De Cholet pour Matignon Finance et Financière Arbevel et Thibault Prébet qui nous accompagnait ce matin. Je vous remercie de votre présence en plateau. Dans un instant, on fait un détour par les marchés. Puis vous n'oubliez pas les replays qui vous attendent sur notre site. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on vous accompagne jusqu'à midi. Dans un instant, ce seront les matières premières qui seront à la une. Mais auparavant, comme à l'entame de chaque demi-heure, un détour sur les marchés, détour technique. Grâce à Gilles Santacreux qui, depuis Boursicoté, garde un œil attentif sur ses écrans depuis ce matin pour nous lire graphiquement la séance du jour. Et on le répète, hein, Gilles, c'est une séance qui manque un peu d'enthousiasme.
Oui, tout à fait. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, on a très peu de conviction hein, sur ces marchés. On est dans une semaine d'attente. Alors d'un point de vue technique, on a eu une séquence qui pourrait devenir intéressante pour la suite de la journée si on confirmait un mouvement baissier. C'est le comblement du gap que l'on avait eu vendredi. On avait eu un gap haussier. On indiquait tout à l'heure un support intraday à 7180 points. Là, on est venu donc combler les 7171 et ensuite on est remonté. Alors, ce gap, il est intéressant puisque s'il était comblé et si on repassait en dessous, eh bien, on pourrait repartir là et je dirais remettre un petit peu plus de conviction sur un potentiel biais qui pourrait redevenir donc baissier et on pourrait viser un retour sur la zone des 7110 points. Pour le reste, on n'a pas grand chose, hein. Au niveau de mes algorithmes, on a des probabilités qui misent sur une stabilisation, voire légère hausse jusqu'à la fin de la semaine, mais avec une baisse qui pourrait reprendre la semaine prochaine. Donc, on voit que le marché, d'un point de vue statistique, reste très fragile. Sur le reste, j'irai des actifs au niveau de la paire de devises euro-dollar, on a testé donc un support à 1,0670, je l'avais aussi. Il faut faire attention, une rupture de ce support eh bien, pourrait nous donner un nouvel objectif sur cette paire de devises sur un support qui est majeur à 1,05 et ce qui fragiliserait un petit peu là aussi cette paire de devises et qui pourrait nous redonner une dynamique baissière qui pourrait durer. Je surveille aussi l'or qui joue un petit peu avec une zone de support majeure à 1960 $ l'once. Et aussi, on voit que le côté poussif du marché eh bien, n'épargne personne, puisque malgré une intervention de l'OPEP ce week-end, on avait un range sur, par exemple, le WTI entre 70,50 et 74 $ le baril. Suite aux annonces donc de l'OPEP, on est remonté sur la zone des 74 et ensuite on est revenu se stabiliser dans ce range tel qu'il était précédemment. Donc on voit que même sur certains secteurs avec des attentes, eh bien, rien ne bouge. Je continue à surveiller le dollar index hein, qui a bien monté la semaine dernière, on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Mais sinon, pour le reste, au niveau du CAC 40, à part deux ou trois valeurs, on a Téléperformance hein, qui marche bien aujourd'hui. Eh bien, il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire.
Merci beaucoup pour cette lecture graphique, technique, comme chaque mercredi. Gilles Santacreux, depuis boursicoté.com et ce marché parisien, donc, qui perd 0,4%, 7180 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, matières à réflexion.
Matière à réflexion qui accueille ce matin Raphaël Dubois. Bonjour Raphaël.
Bonjour Cédric.
Pour la Société Générale CIB et on parle du plastique cette semaine. Pourquoi ?
Alors c'est vrai que c'est pas une matière première, mais
dérivé de matière première.
Exactement. C'est la transformation le plus souvent du pétrole ou du gaz. Donc il faut en parler parce que il se passe beaucoup de choses. On a vu la semaine dernière qu'il y avait un sommet international pour parler de la pollution plastique et on se dirige vers un traité international fin 2024 qui sera juridiquement contraignant. Donc c'est important pour les producteurs de pétrole puisque il y a 8% à peu près du pétrole mondial qui sert à faire du plastique. Donc il faut s'intéresser à tous les débouchés et on sent bien que pour certaines ONG c'est pas forcément la fin de vie du plastique qui les titille, c'est l'utilisation totale du plastique. Donc c'est un sujet dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines années.
Parce que le plastique est partout.
Il est partout. On parle en volumétrie de 390 millions de tonnes à peu près de consommation annuelle, qui va croissante. Donc, effectivement, on le retrouve dans absolument tous les domaines de notre vie. Les pans les plus importants, c'est tout d'abord le packaging. Je suis sûr que tout le monde s'en rend compte après avoir reçu des paquets ou autres. 44% de la consommation de plastique, c'est le packaging. Ensuite, dans la construction, un peu moins de 20%. Et un petit peu moins de 10%, c'est dans l'automobile. Donc, vraiment, il y en a partout, de tout type.
Alors, on ne va pas forcément avoir le temps de brosser toute la planète plastique, mais si on se regarde un petit peu l'Europe, comment on se situe ?
Alors, l'Europe, ça reste un producteur important, c'est 15% de la production mondiale de plastique. Et quand on regarde la fin de vie justement de ces plastiques, ou en tout cas les alternatives aux plastiques qui viennent du pétrole et du gaz, on se rend compte que l'Europe, c'est 18% du recyclage des plastiques, donc plus important que son poids dans la production de plastique vierge. Mmh. Et c'est également plus de 20% de ces fameux plastiques biosourcés, donc des plastiques qui sont faits à partir d'autres choses que du pétrole et du gaz. Donc j'ai envie de dire que l'Europe, dans son ensemble, est plutôt un petit peu en avance sur le traitement des plastiques.
Si on s'intéresse tant à ce plastique, si les ONG, si cette conférence, etc., c'est parce qu'effectivement, ça pose des questions, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y a des solutions ? Comment est-ce qu'on doit observer ce monde plastique ?
C'est toujours un peu la même chose, finalement. Ce qui va motiver les consommateurs de plastique pour faire du packaging, ça va être à la fois la réglementation et en même temps la diabolisation. Pourquoi ? Parce que le producteur va être obligé de respecter le diktat, la règle, ou bien alors, sous la pression sociale, il va faire des efforts. L'Europe a par exemple décidé qu'en 2030, 55% des plastiques dans le packaging devront être recyclés. On n'y est pas encore, mais ça va motiver les sociétés qui consomment ces packagings, je pense à Pepsi-Cola par exemple, ou Evian ou d'autres, à militer pour que les producteurs de plastique fassent des efforts. Et puis, je suis sûr que tout le monde se rend compte en faisant ses courses. Aujourd'hui, c'est un peu la course à l'échalote, que ce soit sur la bouteille de shampoing ou sur la bouteille d'eau. Il y a systématiquement écrit « issu à X% ou Y% de plastique recyclé ». Donc, c'est quand même vendeur également de montrer sa bonne volonté.
Alors, justement, parce que nos exposés réguliers servent aussi à piloter d'éventuels investissements. Du coup, comment on traduit tout ça au niveau des entreprises ? Vous nous avez dit quelques mots, mais...
Du côté des sociétés qui ont besoin des plastiques pour vendre des biens, on note des tendances de fond fortes. Pepsi-Cola, par exemple, je suis désolé pour les citer, mais c'est 3 millions de tonnes de plastique par an. Et ils se sont engagés à utiliser d'ici 2025 20% de plastique vierge, donc issu du pétrole ou du gaz, de moins qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils vont augmenter l'utilisation de plastique recyclé ou de plastique biosourcé. Evian s'est engagé à utiliser 100% de PET, c'est le nom savant pour le plastique des bouteilles que l'on boit, qui sera issu également du recyclage. Donc, du côté du consommateur, il y a une tendance qui pousse les producteurs de plastique à eux aussi prendre des engagements. Pour en citer quelques-uns, Borealis, qui appartient au groupe pétrolier OMV, ils veulent, d'ici 2030, avoir 2 millions de tonnes de plastique, soit 40% de leur production de plastique, qui sera soit issue du recyclage mécanique ou chimique, ou bien ce seront des plastiques biosourcés. Et c'est à peu près les mêmes engagements pour des Lyondell Basel, des Dow Chemicals, ou encore des sociétés comme Shell. Et peut-être pour terminer par un exemple concret près de chez nous, Total Energy, sa raffinerie de pétrole classique de Grand Puy, va fermer, et grâce à un investissement de 500 millions d'euros en 2024, sur ce même site, ils vont produire à la fois des biocarburants, mais également des plastiques biosourcés en partenariat avec une société qui s'appelle Corbion, et également faire du recyclage chimique de plastique en partenariat avec une société qui s'appelle Plastique Énergie. Donc, je sais qu'on accuse souvent nos sociétés de faire du greenwashing, mais il y a quand même des investissements qui se comptent en centaines de millions et qui vont dans le bon sens.
Eh bien voilà, un petit tour du monde du plastique. Raphaël Dubois, merci de nous accompagner pour Société Générale CIB ce matin dans Matière à réflexion. À très bientôt.
Merci.
Le marché parisien, lui, il reste pour le moment en baisse de 0,4%, 7180 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la sélection.
Et comme chaque semaine, comme chaque mercredi, on a rendez-vous avec la sélection de BFM Patrimoine. Et ce matin, aux commandes de la sélection, Jean-François Gilles. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Pour Erasmus Gestion et Thibaut François. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric. Bonjour Jean-François.
Fastea Capital. D'abord, on a l'impression depuis quelques jours qu'on n'a plus trop envie en bourse, qu'on se cherche. Alors vous allez me dire, oui, mais on gagne encore 15% depuis le début de l'année quand on prend les dividendes. Mais enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus d'envie.
Oui,
petit problème de micro vivement de votre côté. Alors, non, on va commencer. Non, non, on va commencer avec Thibaut et puis on va résoudre le problème. Thibaut.
Alors, c'est pas un manque d'envie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la publication du premier trimestre est passée. Donc, on analyse cette première partie de l'année. On commence à toucher aussi les coupons sur la plupart des entreprises. Donc, on va dire avril, mai, juin, c'est quand même une période propice pour toucher les coupons, les dividendes, notamment pour les actions. On a encore des incertitudes sur la partie cycle de hausse de taux. La Fed se réunit la semaine prochaine pour savoir si oui ou non on fait un stop ou si on y retourne encore pour une dernière fois. Donc les chiffres de l'inflation US vont être quand même surveillés d'assez près dans les prochains jours. Et donc prendre des décisions d'investissement importantes pour les prochaines semaines, c'est pas si évident que ça. Donc pour l'instant il y a encore deux trois petites incertitudes qui sont encore dans le marché. On parle beaucoup d'inflation. On parle beaucoup de récession, depuis de nombreux mois. Elle arrive, donc aux États-Unis ça fait 12 mois qu'on l'entend, elle arrive. Pour l'instant on la voit pas venir.
Alors,
de temps en temps sur certains pays effectivement on a un trimestre qui est en récession, mais aujourd'hui on la voit pas venir. Donc effectivement on est prudent sur les secteurs cycliques parce qu'on se dit que la récession arrive, sauf que c'est pas le fait d'en parler qui va faire arriver la récession. Aujourd'hui je trouve que l'économie va plutôt bien. J'enlève la partie immobilière où c'est quand même ultra compliqué, notamment pour les promoteurs immobiliers, et vu qu'en France on est quand même très immobilier, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans le dur, alors que c'est vrai que pour l'instant ça concerne que la partie immobilière. Donc si on enlève cette partie immobilière, les entreprises vont bien, le taux de chômage est frictionnel, que ça soit aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, c'est vraiment frictionnel. On a un taux de croissance qui est certes pas dingue en France, mais en tout cas il existe. L'inflation recule un petit peu, donc c'est vrai que on a des carnets de commandes aussi dans les entreprises, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Et c'est vrai que je vois pas trop où investir aujourd'hui à partir sur les actions. Il y a encore plein de potentiel sur de nombreuses valeurs. Alors le CAC 40 a bien progressé ces dernières années, il y a peut-être un petit peu plus de potentiel à mon avis en descendant un petit peu dans la cote, mais on est toujours plutôt positif de notre côté sur l'environnement macro, mais aussi sur la partie microéconomique.
Jean-François, puisque vous avez retrouvé votre micro.
Oui. Je crois qu'en effet, on a besoin de plus de visibilité pour s'engager davantage. Et en plus, nous sommes à l'orée de l'été. Et c'est en général une période où on allège ses positions avant de partir en vacances.
Oui, c'est ça.
On en est là, je crois. Et en espérant qu'à la rentrée, on aura soldé un petit peu cette période de hausse des taux. Je pense qu'en effet, on est en pause aux États-Unis. Mais c'est une pause. Ce n'est pas un renversement de direction, n'est-ce pas? En Europe, on pense qu'il va y avoir encore des hausses en juin et juillet. Ça me semble vraisemblable, modeste, hein, 25 centimes. Et en même temps, l'activité ralentit, mais moins qu'on ne l'attendait. Donc, on a besoin de plus de visibilité pour franchir une étape supplémentaire. Et finalement, les investisseurs qui, depuis le début de l'année, ont une performance qu'ils n'attendaient pas, sont satisfaits de cette position et de cette position d'attente.
Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de repositionnement de certains investisseurs qui étaient là pour soutenir le marché parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, et maintenant c'est toujours Goldman Sachs qui est très féru d'acronymes qui nous invente Tara, il y a des alternatives raisonnables. Est-ce que vous repérez ça aussi d'éventuels investisseurs, des passagers clandestins comme on disait, qui étaient là sur le marché actions et qui parfois influençaient les indices et qui maintenant sont repartis finalement sur d'autres alternatives que les seules actions?
On peut se poser la question. Sur la partie rendement action, on est plutôt entre 4 et 5%, on va dire, si on tient compte des dividendes, CAC 40 ou Eurostoxx, etc. Aujourd'hui, racheter des obligations courtes avec des rendements au-delà de 4-5%, c'est possible. Donc effectivement, il peut y avoir des arbitrages, c'est-à-dire que au lieu d'acheter des actions où je prends mon 4-5 avec du risque effectivement d'avoir un peu un cours qui subit pendant quelques années, je rachète des obligations sur à peu près les mêmes émetteurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'émetteurs aujourd'hui où on a du 4-5% même sur du investment grade. Donc c'est pas illogique de se dire j'ai du 4-5 points, ça couvre à peu près l'inflation, je suis positionné pendant 2-3 ans, j'attends un peu de visibilité, ce que disait Jean-François, j'attends un peu de visibilité pour investir un peu plus de façon un peu plus sûre sur la partie action, et en attendant je prends mon 4-5 points de coupon sur les investissements de graines. C'est pas illogique, et vous savez, il y a la courbe des taux, on en parlait il y a 2-3 ans quand les taux étaient revenus très bas et donc les actions avaient on va dire plutôt progressé, les obligations avaient fortement chuté, on n'arrivait plus à trouver de rendement sur les obligations, et donc on avait eu des rachats sur les fonds obligataires pour aller sur les on va dire les fonds actions. Donc là on va avoir un mécanisme qui va, je pense, on va dire s'inverser peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
C'est quelque chose que vous observez aussi quand vous regardez un peu les flux?
Oui, je suis tout à fait d'accord, nous sommes tout à fait d'accord avec l'analyse de Thibault. En effet, il y a aujourd'hui des alternatives, et la première, c'est tout simplement le placement monétaire qui aujourd'hui est positif, et pour peu que l'inflation, qui est quand même, semble-t-il, en train de décélérer, continue à décélérer, même par rapport à l'inflation, le placement monétaire va devenir quelque chose de correct.
Qu'on peut regarder, oui. Ça ne fera pas des bons.
Non, l'obligataire, Thibault l'a très bien décrit. Je rajouterai encore deux autres éléments qui sont un petit peu nouveaux. C'est la montée en puissance des produits structurés, qui séduisent un plus grand nombre d'investisseurs que par le passé. Et dans les produits un peu plus classiques, qui restent des fonds, sur le marché obligataire, il y a des produits à échéance aussi, qui sont aussi une alternative. Alors, si vous rajoutez à cela que, en ce qui concerne les actions, les valeurs mobilières à stricto sensu actions, eh bien, on voit qu'il y a un déplacement, et si on regarde l'analyse des flux dont vous parliez, plusieurs la font, Goldman, Bank of America, etc., elle est la même partout. C'est-à-dire qu'il y a de la collecte sur les ETF, et il y a une décollecte sur les fonds actifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises qui sont dans les grands indices vont avoir plus de souscripteurs que celles qui sont pas l'objet d'ETF. Voilà. Donc, il y a vraiment un déplacement de l'épargne.
Comment se comporte, selon vous, notre sélection dans ce contexte-là, Jean-François?
Écoutez, presque 12% depuis le début de l'année. J'aimerais bien que mes fonds en fassent autant. Ce n'est pas le cas.
Donc, on connaît très bien, ça s'appelle la sélection BFM Patrimoine.
Donc, c'est bien, même si ce n'est pas le même niveau que le CAC, il y a 2,3 de retard, hein, 11,80 contre 14. C'est quand même une très belle performance, et je crois qu'on l'a faite en plus avec une poche de liquidité qui a été entre 10 et 15% suivant les moments. Ouais. Donc, il y a tout lieu d'être satisfait de ce premier semestre. Hein.
Satisfait aussi, Thibault?
Oui, bien sûr. Retraité du cash, ce que vient de dire Jean-François, retraité du cash, on n'est pas loin du CAC, parce que le CAC est forcément 100% investi tout le temps. Dans un marché haussier, si on a un peu de cash, forcément ça va moins vite. Donc le choix de valeur est plutôt bon, il est plutôt diversifié. On a plusieurs styles de gestion à l'intérieur du portefeuille. Et puis ça se passe plutôt bien. Alors un petit peu moins sur les petites et moyennes valeurs, enfin petites et moyennes valeurs, on va dire plutôt mid cap qu'on a dans le portefeuille. On s'aperçoit quand même qu'elles sont en retard par rapport au large cap. Et je crois qu'on va proposer au moins deux arbitrages aujourd'hui.
Alors effectivement, ça va bouger parce que vous avez beaucoup discuté, y compris jusqu'à quelques minutes de l'antenne, donc j'ai pas totalement tout suivi, et on va essayer de faire le point là-dessus. Donc effectivement, il y a une vente qui, semble-t-il, s'est dessinée, c'est celle d'Ipsos, c'est ça, je me trompe pas, on est d'accord?
On est d'accord.
Alors, pourquoi avoir vendu Ipsos? C'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs, parce que c'était un peu le vilain petit canard de la sélection, et des auditeurs qui ne comprenaient pas pourquoi on restait là, pourquoi on s'acharnait à conserver du Ipsos, et il y avait des explications qui se valaient d'ailleurs pour justifier la position, mais bon, voilà, visiblement, c'est plus le cas. Pourquoi ce choix? Qui entame le...
je pense que ça n'a rien à voir avec les fondamentaux d'Ipsos. Ipsos reste solide. On en parlait il y a, je crois que c'était il y a 15 jours. Je pense que le best in class, c'est quand même Publicis. Et on le voit bien que Publicis marche très bien. Par rapport à Ipsos, donc c'est un petit peu, on va dire que Ipsos souffre un petit peu de la comparaison par rapport à un Publicis. On les sort plus pour faire un arbitrage, parce qu'on veut pas, on veut garder nos 15% de cash. Aujourd'hui, on a 17 lignes investies sur les 20, donc on veut garder 15% de cash. On sort Ipsos pour une autre, on va dire mid-cap, et donc on a plutôt cherché une valeur à sortir sur laquelle on a peu d'ambition à court terme, plutôt que de sortir, de prendre du cash dans le portefeuille.
Donc c'est plus un arbitrage tactique qu'un choix de valeur, Jean-François.
Oui, on a été malheureux puisque Ipsos, on l'a vu l'année dernière, elle était à 60, hein, et on va la vendre à 45, donc on aurait dû la vendre beaucoup plus tôt et garder Publicis. On a loupé ça. Mais effectivement, on ne veut pas avoir non plus une proportion trop importante de valeurs petites et moyennes dans la sélection. Et donc, l'idée que nous avons retenue est dans une des idées qui va rentrer, il y a une valeur petite et moyenne qui va remplacer Ipsos. Voilà.
Donc, Ipsos, demain, cours d'ouverture, vous en avez l'habitude maintenant de la méthode de la sélection, sortira au cours d'ouverture, comme ça vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà répliquer tout ça. Et alors donc, effectivement, on reste dans les mid-cap, tiens, allons-y, avec Mersenne, c'est bien ça ?
Mersenne, oui, tout à fait.
Alors, visiblement, ça suscite pas mal d'enthousiasme, parce que c'était aussi la pépite d'Odo BHF ce matin, donc visiblement, le marché croit à Mersenne.
Tant mieux. Mersenne, c'est un choix offensif. C'est une cyclique, mais qui s'est redressée et concentrée ces dernières années sur la partie transition énergétique. Donc travaille beaucoup dans le solaire, beaucoup dans tout ce qui est voitures électriques, donc fournisseurs forcément sur la partie carbone. Ils ont fait une augmentation de capital récemment de 100 millions d'euros. Donc c'est aussi un choix offensif de leur part, c'est-à-dire que l'objectif c'est de financer le plan 2027. Ils ont une croissance et une visibilité importante sur les métiers de la transition énergétique. On y croit. C'est une croissance qui devrait être soutenue au-delà de 10% sur ces métiers-là, avec un gros carnet de commandes. Alors même si c'est cyclique, même si effectivement il y aura des trimestres qui seront un petit peu moins bons dans les prochaines années, on s'attend à une belle croissance et une belle amélioration des marges sur les 3-4 prochaines années. Donc en plus, pour jouer la transition énergétique, je pense que c'est un bon cheval, on va dire, pour les prochains mois. Et en plus, on a une valorisation qui est particulièrement faible aujourd'hui, ouais, sur Mersenne.
Une belle touche de SG, ouais, c'est sympathique.
Absolument.
Bon, vous avez la même lecture,
oui,
sur.
Oui, nous aimons sur bien.
Mersenne qui.
Alors attention quand même. Hein, en ce qui concerne aussi bien cette vente que cet achat, ce sont des titres qui sont un peu moins liquides que les grandes, oui, valeurs. Donc que les auditeurs pensent bien à placer des ordres avec des cours limites.
Oui, c'est toujours important de regarder un petit peu aussi l'envers du décor et l'aspect technique. Elle est aussi là pour ça, cette sélection, pour vous permettre de faire un petit peu de pédagogie. Donc, vente d'Ipsos, achat de Mersenne demain au cours d'ouverture de la Bourse de Paris. Et puis, autre valeur, c'est Airbus qui a retenu votre attention, c'est ça ?
C'est Airbus, absolument. On s'aperçoit qu'il y a des commandes de plus en plus importantes, aussi bien chez Boeing que chez Airbus. Nous sommes à quelques semaines, peut-être même quelques jours, du salon du Bourget, je crois, où traditionnellement sont annoncées de très grosses commandes. On sait que Airbus en attend une, en particulier d'une compagnie indienne qui devrait être une maxi-commande, hein, comme on dit. Hein. Et il semblerait que la chaîne des sous-traitants de Airbus répondent un peu mieux et que les livraisons commencent à voir leur rythme augmenter. C'est très important. Le carnet de commandes, vous le savez, est très très long. Hein. On est à 9-10 ans. Oui. De nouvelles commandes arrivent. Il faut donc que derrière, la chaîne de production puisse les satisfaire dans un délai qui est raisonnable. Le grand concurrent Boeing rencontre les mêmes difficultés de livraison, en quelque sorte, hein, de finition. Et le transport aérien, bon, pour ceux qui cherchent à voyager cet été, ils savent à quel point c'est difficile de réserver. Il y a beaucoup de dépenses des ménages qui sont coupées, mais alors certainement pas celles des vacances et loisirs. Donc les compagnies vont continuer à acheter.
Séduit aussi par Airbus et rien. Enfin, on a entendu ces derniers jours le premier vol commercial du concurrent chinois de la 320 et du 737 Max.
Ouais, mais ils sont trop loin. Ils sont trop loin à court terme. À court terme, Boeing et Airbus, ils sont trop loin pour avoir, on va dire, une concurrence forte. Les compagnies aériennes cherchent de la visibilité, cherchent à améliorer leur flotte, cherchent à réduire leur consommation de carbone. Donc aujourd'hui, Airbus répond à tous ces arguments. En plus, on a de la visibilité sur le carnet de commandes. Effectivement, la production se passe mieux et on a un rythme qui est beaucoup plus élevé. C'est une machine à cash aussi. On va pas se le cacher. C'est une machine à cash et une trésorerie pléthorique chez Airbus. Donc aujourd'hui, c'est une belle entrée pour la sélection et je pense qu'on a une belle visibilité sur le dossier pour les prochaines années.
Voilà donc quelques pas de doute sur ce concurrent chinois pour le moment non plus, Jean-François. Non. Voilà donc les arbitrages entre guillemets du jour, puisqu'on a une vente Ipsos, ouais, et deux achats Mersenne et Airbus, que tout ça réalisé avec les cours d'ouverture de demain, et on garde donc une poche de liquidité correcte. Enfin,
on a une dernière vente aussi sur Pernod.
Ah ouais, sur Pernod. Ah oui, Pernod, pardon.
Cédric, ouais. On a une dernière vente sur Pernod, c'est la deuxième vente. Plus pour des problèmes de valorisation à court terme. On en parlait ce matin avec Amandine. Certains, notations ESG enlèvent la partie boisson, alcool de ces différents critères. Donc on enlève Pernod de la sélection à court terme. C'est plus un arbitrage aussi pour garder du cash. D'accord. Plutôt que par rapport aux fondamentaux de Pernod qui restent évidemment solides.
Et sur une performance très honorable.
En plus.
Oui.
On ne fait pas la fine bouche. Merci beaucoup à tous les deux donc d'avoir rejoint le plateau pour gérer cette sélection. Jean-François Gilles, Erasmus Gestion, et Thibaut François pour Fastea Capital. Dans un instant, 90 minutes business et donc Sandra Gandoin.
Bonjour Sandra. Vous allez bien?
Oui. Et votre programme pour ce milieu de semaine?
Objectif plein emploi, hein, c'était au menu du Conseil des ministres ce matin, ce projet de loi qui vise à ramener le taux de chômage sous la barre des 5%. Hein. C'est France Travail, on va en parler dans notre journal. Évidemment, nos invités, ce sont deux femmes qui ont réalisé un film documentaire pour aider les entrepreneurs à leur début. Ça s'appelle Le Bon Sens et c'est Lisa Verdiani et Alice Leclerc qui nous en parleront dans un quart d'heure. Et puis, invité exceptionnel à 12h45, Cédric, c'est Jean-Pascal Tricoire, le président du conseil de surveillance de Schneider Electric, qui sera en direct de cette conférence de Versailles, vous savez, sur l'efficacité énergétique. Ça se tient jusqu'à demain à l'initiative de l'Agence internationale de l'énergie. Et bien, Jean-Pascal Tricoire va nous en parler. Ce sera à 12h45.
À suivre, donc, dans un instant, 90 minutes business. Le marché, lui, est en repli de 0,36%, 7182 points. Et n'oubliez pas, bien évidemment, les replays qui vous attendent sur notre site. Et puis, vous avez noté d'ores et déjà, et 90 minutes business sera aussi associé à cette édition spéciale vendredi pour parler immobilier après la déception du CNR du logement.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.